Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit avec chaque jour jusqu'à 19h vos grandes voix. Bonsoir les grandes voix, Michel Cotta, bienvenue à vous dans ce studio. Jean-Rémy Baudot est avec nous du service politique d'Europe 1. Bonsoir Jean-Rémy.
Bonsoir Nathalie.
Et Adélaïde Zulfi-Karpatic, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue de BVA Opinion. On va zoomer sur un sondage que vous nous livrez aujourd'hui même. Marseille, la cité phocéenne, dans un petit instant avec vous. D'abord, j'aimerais bien qu'on commence, si vous le voulez bien, parce qu'il y a cette convention citoyenne sur le climat qui touche à sa fin. Dimanche, les conclusions. Et bien sûr, ce second tour des municipales avec, on le voit, hein, la forte progression des écologistes, en tout cas la forte présence. Sur un petit extrait sonore, c'était Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts.
Nous, on est là pour agir, pas là pour parler. Quand on veut gagner les villes et les villages, c'est pour être au service. J'ai été hier à Marseille, il y a des ambitions extraordinaires pour faire de la deuxième ville de France une ville dont les Marseillaises et les Marseillais seraient fiers, et non pas cette ville aujourd'hui où la prédation, l'affairisme, le clientélisme règnent.
Oui, il a compris lui aussi qu'on allait parler de Marseille hein, dans un petit instant, Yannick Jadot. Non mais sincèrement, c'était la crainte des écolos qu'à la faveur de la crise, la question environnementale disparaisse des écrans radars. On est finalement dans une incontournable question écologique, Michel Cotta, à ce jour.
C'est très curieux parce qu'il y a eu une espèce de confusion, enfin au-delà de la Convention citoyenne, c'est très intéressant, on va y revenir. Mais il me semble que pendant tout le long de la crise pandémique, on a mis en relation la crise pandémique et la crise écologique en disant que les deux avaient à voir et que si on avait peut-être planté plus d'arbres, il y aurait moins de virus. Ça n'a effectivement rien à voir, il n'empêche que la cause écologique a retrouvé quelque chose de nouveau pendant cette pandémie, avec peut-être un désir d'évasion, de verre, de nouvelles organisations de la vie et des loisirs. Peut-être ça, on y reviendra, parce que dans la convention, quand même, il y a beaucoup de loisirs.
Bien sûr. C'est ça, Adélaïde Zulfi-Karpatic, et on va peut-être le voir dès le 28 pour ce second tour des municipales. On voit bien que la préservation de l'environnement, ça y est, c'est un peu plus encore un sujet central du débat public, là, aujourd'hui, en France.
Alors, c'est un sujet qui s'est progressivement imposé en France et d'ailleurs ailleurs dans le monde au cours des, on va dire, 18 derniers mois. Souvenez-vous, il y a encore un an et demi de ça, les deux sujets majoritairement qui créaient les préoccupations en France, c'était le chômage, le pouvoir d'achat. Et on a vu cette préoccupation monter progressivement jusqu'à s'installer dans le trio de tête. Et c'est vrai que la crainte qu'on pouvait avoir avec la crise du Covid, c'était de reléguer cette préoccupation au second rang, notamment dans le cadre de la relance économique. On a mis un petit peu de temps à se dire, est-ce que la croissance va forcément être une croissance verte? Est-ce qu'elle ne va pas se faire au détriment de l'écologie en favorisant d'abord l'économie, l'industrie, la relance de l'emploi? Donc cette question, en tout cas, effectivement, se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui.
Et alors, si on regarde, parce que c'est en train de se jouer en ce moment, la Convention climat, avec cette clôture dimanche, on l'a vu, 150 Français tirés au sort. Ça y est, Emmanuel Macron réagit, on verra s'il est sur place dimanche, mais en tout cas, il donne rendez-vous à ses Français le 29 juin pour commencer à discuter de ses propositions. Ça peut être, Michel Cotta, vraiment l'un des grands marqueurs de cet acte 3 dont on parle d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est peut-être un grand marqueur, mais quand même, les élections municipales vont révéler des contradictions formidables. Par exemple, ne serait-ce que celle-là, la plupart des représentants de La République En Marche s'allient à la droite, souvent contre les Verts, alliés avec la gauche. D'ailleurs, ça va être difficile de ce point de vue-là.
Bien sûr.
C'est déjà un dilemme. Le deuxième, une partie de la convention, si elle tient, hein, si elle retient, travailler beaucoup moins. Le président l'a dit il y a quelques jours, il faudra travailler plus pour rattraper. Et aussi, il y a la relance économique. La relance écologique ne fait pas oublier la relance économique.
Et effectivement, et est-ce que les deux sont compatibles? Ça, c'est aussi sur la longueur une question.
Surtout quand on dit que les aéroports ne doivent pas s'étendre. Il y a des tas de choses qui sont prises en considération et qui le seront, hein, sûrement. Il y a des tas d'autres choses qui poseront problème avec le développement économique de la France.
Et oui, Jean-Rémy Baudot, vous êtes notre journaliste politique à Europe 1. Jean-Rémy Baudot, on a vu que tous les partis ont entrepris de verdir leur programme pour coller clairement à l'air du temps. Même les Républicains, qui étaient certainement les plus frileux, en tout cas les moins disserts sur le sujet, s'y sont mis.
Oui, alors les Républicains, ils s'y mettent quand même doucement. C'est pas ceux qui vont porter le plus, notamment le développement du vélo, quoi qu'ils en disent dans la plupart des villes. Je voudrais juste quand même revenir sur ce que vient de dire, sur ce qu'a dit Michel il y a quelques instants. Les accords, La République En Marche, LR, contre effectivement des listes où il y a des écologistes, c'est aussi qu'il y a 50 nuances d'écologie. C'est-à-dire que la droite et LREM qui sont ensemble, c'est souvent la droite Juppé. C'est souvent, par exemple, prenez Strasbourg, c'est une droite très centriste, finalement, très macro-compatible. Ça n'est pas vraiment la droite Wauquiez. Et de l'autre côté, on a aussi une partie de l'écologie qui est très tournée vers la décroissance, vers les insoumis, etc. Donc, il faut quand même faire attention aux étiquettes. Ce qui est certain, c'est que ce débat de l'écologie, il n'était pas simple. Ça n'est pas dans le logiciel de départ de beaucoup de nos dirigeants, notamment Emmanuel Macron. Ça n'est pas du tout son truc au début. Moi, j'ai eu plusieurs discussions avec lui sur le sujet. L'été dernier, je me souviens, il me dit, j'ai la foi des nouveaux convertis. Et alors, je lui ai demandé, est-ce qu'il avait l'impression qu'il devait en faire deux fois plus que les autres, ce qui est souvent le cas des nouveaux convertis. Il m'a dit en tout cas qu'il essayait de faire. Ce qui est certain, c'est qu'il se donne beaucoup de mal et que ça ne paye pas du tout. Convention citoyenne, conseil de défense écologique, de nombreuses annonces sur la fin du plastique, sur les pesticides, l'idée de ce référendum sur peut-être la rénovation des bâtiments, tout ça c'est des choses qui deviennent de plus en plus concrètes, mais honnêtement, aller dans la rue, demander à n'importe qui, est-ce qu'Emmanuel Macron incarne aujourd'hui l'écologie,
c'est pas naturel.
90% des gens vont vous dire non.
Exactement. On se retrouve dans un petit instant, Jean-Rémy Bodo, Michel Cotta, Adélaïde, Zulfi Karpassik, on y revient bien entendu, et puis on ira dans quelques instants également dans la cité phocéenne à Marseille et Lavelle de ce second tour des municipales.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit à 18h40 avec les grandes voix. Michel Cotta, Jean-Rémy Bodo, Adélaïde Zulfi Karpassik. Et dans un instant, on est à Marseille avec Nathalie Chevance pour Europe 1 également. On reste encore quelques minutes sur évidemment la percée des Verts, Michel Cotta. Quels que soient les résultats du 28 juin au soir, ils auront fait de toute façon bouger les lignes. Et on voit bien que la menace, elle commence quand même vraiment à se dessiner de ce côté-là pour Emmanuel Macron.
Oui, d'autant qu'ils ont fait quand même un score remarquable pour eux au municipal, c'est-à-dire 16,4%. Des suffrages dans les grandes villes. Donc évidemment, ils deviennent un interlocuteur essentiel. Et on s'est aperçu que pendant les discussions qu'il y avait entre les deux tours, La République En Marche a conclu 28 accords sur 53 avec la droite et 11 fois seulement avec la gauche. Donc la gauche s'est unie autour des Verts et au point qu'on peut se demander aujourd'hui si... au fond, Jadot n'est pas le candidat...
Le candidat qui menace aujourd'hui,
qui est celui de la gauche, qui naturellement désigné, étant donné que le Parti Socialiste est largement battu les Verts. Et donc, peut-être que Jadot sera un des principaux partenaires de l'élection présidentielle. Et c'est quand même à retenir. Hein.
Là-dessus, évidemment, Adélaïde Zulfi Karpassik et Jean-Rémy Bodo avant d'aller à Marseille.
Il y a deux choses. Il faudra effectivement voir si la tendance qu'on a observée au premier tour des municipales se confirme. Il faudra voir si les Verts, et on sait que c'est pas leur fort, réussiront à capitaliser, à transformer l'essai dans la durée, et puis à l'incarner effectivement à travers une figure forte qui n'est pas encore complètement le cas de Yannick Jadot aujourd'hui. Nous, on a sorti notre baromètre politique ce matin. Il se positionne encore dans la cote d'influence parmi les personnalités que les Français souhaitent voir jouer un rôle plus important à l'avenir. Il arrive en 24e position.
Ah oui, ça fait loin.
C'est par 17%. Ouais. Et Marine Le Pen, elle est toujours en 5e position, c'était par un Français sur 3. Donc, il a encore du chemin à parcourir, je dirais, avant de s'imposer comme le...
La course verte Macron-Jadot, on voit qu'il est...
à parcourir,
c'est compliqué pour Jadot.
Jean-Rémy Bodo.
Oui, c'est très compliqué pour Jadot parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de nuances au sein des écologistes et au sein de la gauche aussi. Et je pense qu'Adélaïde pourra le confirmer. On a un vrai souci à gauche pour trouver une incarnation et se retrouver. On va parler de Marseille dans un instant. C'est très intéressant de voir que c'est une candidate écologiste qui a réussi un peu in extremis à devenir la tête de liste d'une liste qui ne s'entendait pas. Mais là, actuellement, au niveau national, Jadot, il aimerait bien évidemment se placer comme le challenger principal. Mais c'est aussi très difficile pour lui. Je ne sais pas, juste d'un mot, si vous avez entendu son débat l'autre jour avec Bruno Le Maire, c'était très compliqué sur France 2, c'était très compliqué pour lui de tenir tête à un Bruno Le Maire qui finalement allait beaucoup sur ses plates-bandes et il avait du mal quand même à aller chercher des thématiques nouvelles et à se montrer encore plus écolo que les écolos de La République En Marche.
C'est ce que je voulais dire, Michel, quand même, c'est que les candidatures à gauche étant en dehors de celle de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas de candidature de gauche socialiste, etc. Et c'est avec eux quand même que les Verts s'allient. Voilà. Donc il n'est pas dit qu'un leader, alors que ce soit Jadot ou quelqu'un d'autre, et qu'un leader vert ne vienne pas à prendre le dessus sur les socialistes. Ouais.
Alors on va justement zoomer sur Marseille, puisqu'on en a parlé avec votre sondage, Adélaïde, dans une petite seconde. D'abord une petite photo, si vous le voulez bien. Nathalie Chevance est avec nous pour Europe 1. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors voilà, évidemment, il y a ce second tour le 28 mai. Évidemment, ce sera la fin de l'ère Godin, 25 ans de règne. En attendant, la bataille est complète pour succéder à l'ancien maire et dans un climat pour le moins compliqué, délétère. Hein, on est dans un climat complètement pourri, même avec une histoire de procuration présumée frauduleuse.
Oui, c'est ça, c'est soupçons de fraude aux procurations. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Mmh. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'affaire de cette maison de retraite, un EHPAD du 12e arrondissement, fief de la droite, où 51 résidents auraient voté à leur insu avec des procurations dites simplifiées, proposées par des candidats des listes LR portées par Martine Vassal. Depuis ces révélations, c'est un véritable tollé et les mots sont extrêmement dur. Ouais. Dernière sortie, celle du Rassemblement National, tout à l'heure en conférence de presse, qui parle de mafia politique. On touche le fond des égouts, dit le candidat Stéphane Ravier, le RN qui va se constituer partie civile. Et c'est un peu le même ton, hein, dans tous les QG. Le printemps marseillais dont on parlait à l'instant, qui rassemble toute la gauche, toutes les gauches, s'est lancé dans une opération de vérification citoyenne de quelques 5000 procurations déjà déposées. Pour ne pas que Marseille devienne une terre de non-droit. Ça, ce sont les mots de Michel Rubirola, en tête dans les sondages, mais qui dit craindre le bourrage des urnes au second tour. Elle parle de scandale, elle dénonce le clientélisme et tous les ténors de la gauche qui ont défilé à Marseille ces jours derniers, Yannick Jadot, encore lui, Jean-Luc Mélenchon, encore lui, disent la même chose, chacun y allant de sa petite anecdote, parce que forcément, les langues se délient, hein, les enveloppes pleines de bulletins, les rabatteurs qui vont dénicher des électeurs devant les bureaux de vote, les intimidations, les bulletins qui disparaissent, les procurations illisibles, etc., etc. Voilà le climat. Et Martine Vassal, dans tout ça, me direz-vous. Et Martine Vassal, elle est pointée du doigt par tous ses adversaires. Hein. Et elle reste droite dans ses bottes. Ce ne sont pas des journalistes parisiens qui vont faire l'élection à Marseille. Ça, c'était sa toute première réaction, qui fait un petit peu penser à ce qu'aurait pu dire Jean-Claude Godin.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Alors depuis, elle a un tout petit peu changé de registre. Elle martèle qu'elle n'est pas une fraudeuse. Ouais. Et elle agite le chiffon rouge, hein, prévoyant le chaos si le printemps marseillais venait à s'installer à la mairie, vidéos et affiches de campagne à la pluie. Alors on en oublie bien sûr les programmes, la politique, on joue sur les peurs. On verra bien si les électeurs auront envie de se déplacer le 28 juin. Mais c'est vrai qu'encore une fois, l'image de Marseille en prend un sacré coup.
Eh oui, on y revient à Marseille. Merci beaucoup Nathalie Chevance pour Europe 1 sur place. Adélaïde, Zulfikar Passy, vous nous livrez ce sondage sur la cité phocéenne dans un petit instant. Avec tous les enseignements à en tirer, les grandes voix reviennent.
Europe 1.
Votre grand journal du soir avec le retour des grandes voix. Encore quelques minutes, on est à Marseille. On a fait le tour de la question autour des procurations frauduleuses. Il y a du grabuge, clairement, dans la cité phocéenne. Adélaïde Zulfikar Passy, il y a aussi une certitude, c'est que la page Jean-Claude Godin, elle va se tourner le 28. Mais qui prendra sa place à la tête de la deuxième ville de France? Une femme, ça c'est une quasi-certitude. Et dans votre sondage BVA avec la Tribune, on a quelques enseignements en tirer sur laquelle.
Vous avez énoncé les deux seules certitudes qu'on a par rapport à ce scrutin. Parce que pour le reste, même si effectivement aujourd'hui au niveau de l'ensemble de la ville, les listes d'Union de la gauche font la course en tête, ça ne veut rien dire pour le 28 juin. Pour plusieurs raisons, parce que d'abord, je dirais qu'en fait Marseille c'est une sorte de millefeuille de complexité. Il y a d'abord le mode de scrutin, qui est comme à Paris ou à Lyon, se joue par secteur. Mais là c'est encore plus compliqué parce que le jeu d'alliance ou de dissidence ne s'est pas fait au niveau global, avec des accords globaux. Il y a des situations complètement différentes d'un secteur à l'autre, avec parfois des accords, des dissidences, des triangulaires, des quadrangulaires. Et puis, troisième niveau d'incertitude, au vu des résultats du premier tour, dans la plupart des secteurs, il est très difficile de dire qui va l'emporter le 28 juin. On a des présomptions sur trois secteurs qui pourraient passer à gauche. A priori, le quatrième et le cinquième resteraient à droite. Sixième, septième, on n'en sait rien. Et dans l'huitième, Samia Ghali devrait s'imposer. Et puis enfin, dernier niveau d'incertitude, au-delà de ça, c'est que on ne sait pas, à l'occasion du troisième tour, ce qui va se passer. Qui va faire alliance avec qui? Je prends l'exemple de Samia Ghali, qui est plutôt de gauche au départ et qui philosophiquement devrait soutenir la candidate de gauche, eh bien en fait, elle a fait alliance à l'issue du premier tour avec LR qui s'est désisté à son profit. Donc il se dit qu'elle pourrait finalement soutenir Martine Vassal. Ouais. Bref, donc on ne sait pas ce qui va se passer.
Mais quand même, regardons, on est à l'heure qu'il est. Hein, Michel Rubirola qui est donné en tête des intentions 35%. De vote, 35%. 30% pour Martine Vassal, soutenue donc par le maire sortant. Hein. Voilà, on est à 20% pour Stéphane Ravier.
Oui, c'est ça, pour le Rassemblement National.
Marseille, c'est un pays dans le pays.
Plus un jeu subtil de la France insoumise, puisque notamment par rapport à Ravier, par exemple, dans la circonscription du mouvement national, il y a une espèce de neutralité de la France insoumise qui surprend tout de même, non ?
Vous parlez des listes du printemps marseillais ?
Oui.
Oui, dans cet arrondissement-là, effectivement, il y a une triangulaire. Ils ne se sont pas désistés. Effectivement,
dans cette triangulaire, ils ne se désistent pas, c'est-à-dire qu'ils font le jeu des Front National.
Potentiellement,
on est d'accord, du Rassemblement. Nous sommes d'accord.
Ouais. On voit en tout cas que c'est une espèce de sac de nœuds. On l'a vu aussi avec cette affaire de procuration frauduleuse. Quels autres enseignements à tirer de ce sondage à 10 jours maintenant de ce scrutin ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un intérêt assez modéré des Marseillais pour le second tour, alors même qu'il y a un enjeu fort qui est celui de la succession de Godin, vous l'avez dit. Et bien pour autant, on escompte une participation supérieure à celle du premier tour, qui était très très faible, mais qui ne sera jamais aussi élevée qu'une municipale normale. Donc deux choses, soit les gens ont encore un petit peu peur d'aller voter, ce qui n'est pas à exclure, et d'autre part, je pense que la crise du Covid étant passée par là, les Marseillais n'ont pas la tête à ça.
Ouais, c'est ça. Jean-Rémy Baudot, on a une image, tiens, Michel Rubirola, qui a reçu la visite d'ailleurs tout à l'heure, lundi, de Yannick Jadot, hein, du Vert Yannick Jadot.
Oui, effectivement, il faut quand même rappeler que jusqu'à présent, elle était complètement inconnue, Michel Rubirola, et que l'énorme surprise, c'est donc qu'elle arrive en tête à ce premier tour. L'énorme surprise, c'est que elle a désormais une grosse partie, en tout cas, de la gauche avec elle. Elle parle écologie, elle parle logement, elle parle rénovation médicale. C'est vraiment la fin. Médecin, c'est vraiment la fin d'une histoire, notamment pour la droite. À la base, rappelons-le quand même qu'on annonçait un duel LR-RN avec le printemps marseillais entre Bleufettes. Le réveil, l'étincelle, ça a été la rue d'Aubagne, le drain de la rue d'Aubagne, et puis cette campagne dont on parlait, là, pourrie par les divisions, par les soupçons de tricherie sur les procurations. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à Marseille, et notons que, par ailleurs, puisqu'on parlait de La République En Marche tout à l'heure et d'Emmanuel Macron, qui a un attachement particulier pour Marseille. On rappelle qu'il est fan de l'OM, qu'il a tout tenté, il a envoyé des émissaires, même Brigitte Macron est allée sur place pour passer des messages pour rencontrer, mais ça n'a pas pris. Le candidat à l'OM, il s'est complètement écrasé, et on est vraiment face à quelque chose de très particulier, où après 25 ans de Godin, Marseille va peut-être basculer
à peut-être virer à gauche.
On avait senti, sent depuis déjà plusieurs mois, la chute de
la
Godin.
Oui, la chute de Godin,
qui d'ailleurs ne s'est pas entêté, elle n'est pas restée n'est pas restée candidat. Mais c'est vrai qu'elle précède au fond tous ces mouvements et elle explique, cette chute-là explique un peu que les autres mouvements aient proliféré au fond parce qu'ils n'étaient plus là, parce qu'ils n'occupaient plus le devant de la scène.
Ouais. Marseille, donc.
Mais Marseille, ce sera une vitrine, hein, notamment
pour
la droite.
C'est ça, c'est ce que je disais. Marseille, c'est le pays dans le pays, quand même, Adélaïde Zulfikar-Pasic.
Un petit peu aussi, parce qu'on voit d'ailleurs que sur les enseignements du premier tour, que le score de La République En Marche à Marseille a été décevant comme il a été au niveau national. Et oui, vous avez raison, de ce point de vue, c'est une sorte de laboratoire, ou en tout cas de vitrine de ce qui se passe ailleurs.
Je veux dire, c'est le contraire de Paris.
D'une certaine manière, voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1, Michel Cotta, Adélaïde Zulfikar-Pasic. Ainsi que vous revenez nous voir très vite avec lundi. Le sondage, évidemment, sur Paris, la capitale. Bien entendu, merci beaucoup. C'était Les Grandes Voix. Europe 1.